Bonjour les spotters. L'actualité du numérique avec Alain Garnier.
Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga qui a déferlé sur le monde numérique. Je veux parler évidemment d'OpenAI, l'entreprise pour lequel le patron Sam Altman a été débarqué. Alors là, c'est un truc de dingue parce que, bon, on n'est pas Hollywood, hein. D'ailleurs, voilà, tous les scénaristes sont vraiment pas en grève dans la Silicon Valley parce que vraiment, ça a été une histoire, un pataquès pas possible. En gros, en moins de 4 ou 5 jours, hein, parce que tout ça a été très compressé en une semaine, on va dire. Sam Altman, qui avait été celui qui était le dirigeant, hein, qui a emmené en fait OpenAI, il ne faut pas oublier, OpenAI, c'est la boîte qui a lancé le fameux chat GPT, dans lequel on peut parler à un truc qui a l'air presque intelligent, hein, d'où l'intelligence artificielle, enfin, c'est quand même, ça reste artificiel. Il a monté cette boîte et tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des millions d'utilisateurs, c'est devenu vraiment le point central vis-à-vis de ça. Et tout d'un coup, on apprend qu'il est débarqué par son board, comme ça, d'un coup. Donc là, c'est la sidération complète, parce que vraiment, il fait partie des figures aujourd'hui de la Silicon Valley. Et puis en fait, le lendemain, il y a de la pression de la part des salariés. Lui aussi revient dans le game. Il y a Microsoft, on y reviendra après pour essayer de décrypter, qui intervient dans la bagarre. Tout ça en plus, alors sur Twitter, donc le fameux X, qui reste quand même, disons-le, l'endroit où il se passe les choses du monde, hein, quand il s'agit de dire un peu l'espèce d'AFP du temps réel du numérique. Et puis finalement, qui c'est qui est viré? C'est son board à la fin de la semaine. Enfin, vraiment, c'est vraiment une pirouette, le monde à l'envers. Donc on va essayer un peu de décrypter tout ça, parce que vraiment, c'est effectivement un sujet qui peut vraiment interpeller. Ça veut dire déjà que le numérique, c'est très vivant. Déjà, c'est que derrière, vous savez, on disait dans le temps, derrière les travaux, il y a des hommes. Ah, voilà, bah là, c'est pareil. Derrière le numérique, derrière ces grosses boîtes, derrière cette technologie, il y a beaucoup de people. Et par exemple, mon ami Tariq Krim, qui connaît très très bien cet univers, qui décrypte tous les liens qu'il peut y avoir entre toutes ces personnes. Parce que finalement, ils habitent dans un endroit qui est assez petit, hein, quand on prend la Silicon Valley, c'est petit. Ils se connaissent tous, ils ont été dans les mêmes écoles. Après, il y a des clans, et donc, comme il le rappelait, il y a des clans avec des gens qui s'aiment, qui se détestent. Donc, on est dans Dallas, hein, pour ceux qui ont connu cette série de l'époque, où en fait, il y a des espèces d'intrigues. Et on est vraiment là-dedans. Mais moi, j'aime bien sortir un peu de cette question qui est aussi, qui est pourtant le fondement de ce qui fait cette réalité, c'est-à-dire les personnes qui construisent ça, pour essayer de comprendre structurellement ce qui les amène à prendre des décisions comme ça. Parce qu'au départ, OpenAI, c'est une réaction sur cette question de l'intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde, dans lequel quelqu'un qui fait peur à tout le monde aussi, Elon Musk, veut ouvrir, et avec certains des libertariens, justement, un peu ces gens qui pensent que la technologie doit appartenir à peu de gens, mais être très puissante, lance ça en disant, on va en faire une fondation, ça va être super. Sauf que Elon Musk, je pense que son truc lui échappe un peu, et puis il y a aussi des problèmes de personnes, il claque la porte, il n'est pas content, il s'en va. Et cette fondation OpenAI continue à avancer, hein, sans Elon Musk, et à telle enseigne que ça commence vraiment à marcher, qu'il décide de lancer cette non-profit fondation, il lance quoi? Une entreprise. Oh, alors on se dit, ça va plus, ça. Mais en fait, il joue un peu entre les deux, une entreprise pour faire des profits qui, eux, seraient limités. Donc, une espèce de mode un peu innovant. On peut faire des profits, mais pas trop. La tempérance, vous savez que c'est un terme que j'aime beaucoup, appliquée au profit, ce qui est sans doute pas idiot comme vision. Sauf que cette filiale au profit limité, il y a Microsoft qui rentre dans l'affaire et qui injecte plus de 10 milliards. Alors, ce n'est pas de l'argent frais, mais c'est aussi des crédits pour aller sur leur système, parce qu'on a besoin, justement, on y reviendra, de machines pour faire tourner l'IA. Et là, du coup, on voit que l'argent, ce n'est plus tout à fait rien, hein, parce que 10 milliards, c'est beaucoup. Microsoft monte à 49%. Et c'est là que tout d'un coup, alors que tout ça est en train d'exploser en termes d'usage, qu'on est en train de dire on va pouvoir avoir une valorisation de 90 milliards peut-être d'OpenAI, que clac, il y a ce clash parce que ce board, qui lui était resté la fondation éthique, dit « Ah ben non, Sam, tu vas trop vite, tu vas trop vite. » Bon, hein, pareil, on y reviendra, le vite, pas vite. En gros, tu débarques parce que maintenant, il faudrait que l'IA se calme et qu'on arrête de tout ça. Sauf qu'on voit que l'issue une semaine après, hein, y compris celui qui avait été à l'intérieur, peut-être celui qui a tout coquet, Mifili, celui qui était un peu celui qui a le traître, on va dire, des fondateurs, même s'il n'y a pas de traîtrise là-dedans, mais plutôt celui qui a démarré ça, c'est excusé, c'est qu'au fond, c'est le business qui a gagné sur l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, Sam Altman est revenu à la tête d'OpenAI, voilà. Microsoft reverrouille la question, justement, de sa présence. Et c'est normal, il a mis 10 milliards quand même, pas pour rien. Et le board va être revu avec des gens, alors certains ont dit plus matures. Alors c'est intéressant de dire ça, hein. Est-ce que la maturité, est-ce que le business est plus mature que l'éthique? Demandez aux philosophes, à Socrate ce qu'il en pense, hein, c'est intéressant. Mais par contre, des gens qui, clairement là-dessus, sont alignés. Parlons d'alignement, ça me paraît plus juste. Donc, ce qui se passe en tout cas dans cette histoire, pour moi, et c'est vraiment ça que je retire, c'est que toutes ces technologies, elles peuvent être soit devenir du bien commun, c'était l'objectif au départ d'OpenAI, soit d'être privatisées. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, Google. Google, c'est le bien commun, le moteur de recherche universel de trois quarts de l'humanité. Mais en fait, il est privatisé, on est bien d'accord. Hein, ce n'est pas un bien commun. Moi, j'ai proposé d'ailleurs que Google rejoigne l'ONU, par exemple, et soit sous domination de l'ONU, parce qu'effectivement, c'est un bien commun où l'humanité devrait décider ce qu'elle fait, et non pas les actionnaires ou le dirigeant. On a là eu la même chose avec Facebook et Meta. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe, par exemple, a commencé à créer cette notion de gatekeepers en disant « si vous avez de trop grand pouvoir, finalement, vous êtes un parapublic, donc vous devez respecter des règles qu'on va vous imposer ». C'est une façon indirecte de recréer, finalement, dans le modèle privé, quelque chose qui n'est pas que de la liberté, mais qui est justement des règles, parce que c'est le bien commun. Sauf que là, ce qui s'est passé sur OpenAI, c'est très clairement que l'IA pour l'humanité, qui était le projet initial, a été basculé, bousculé, par le business qui est quand même effectivement tentant. Et évidemment, quand Microsoft est rentré dans la bergerie, on se doute bien que c'était un peu le loup. Pendant ce temps-là, ça c'est outre-Atlantique, en France, c'est hyper intéressant parce que la séquence arrive exactement au même moment. Xavier Niel, avec également le patron de LPFCGM d'un côté et Eric Schmidt, donc il est venu avec une grande pointure, a lancé à Station F QTI, qui est un laboratoire pour l'IA sur lequel il met plus de 300 millions sur la table. C'est énorme à notre échelle, c'est énorme. J'entendais, il y avait Léa Salamé l'autre fois à France Inter qui disait « Oui, 300 millions par rapport aux milliards. Enfin, » les milliards de quoi? Quand Microsoft, au départ, OpenAI, a eu 100 millions pour démarrer. Donc là, on a même pour un labo plus que ça. Donc, c'est énorme pour la France. Oublions pas que, voilà, c'est... Donc, clairement, il faut remettre ça à sa juste valeur. Et donc, Xavier Niel, qu'est-ce qu'il fait? Il lance ce labo en se disant que pour faire de la bonne IA, il faut des chercheurs... Ok, mais je vais remonter dans la chaîne de valeur. Il faut des gens qui produisent du soft sur des modèles produits par des chercheurs et il faut que ça tourne sur des machines. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on a une alchimie intéressante parce que tout ce qui est production de soft, on est plutôt assez bon pour faire du UX, etc., la French Touch, etc. Enfin, la French Tech est très bonne là-dessus. Les chercheurs, justement, ils étaient un peu partis parce que, honnêtement, la recherche, et en particulier la recherche publique, ça mérite un autre débat. Mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui comme traitement. Et là, par exemple, Xavier Niel, ce qu'il donne, c'est la liberté aux chercheurs. La liberté de bosser sur ce qu'ils ont envie. Et ça, pour un chercheur, c'est essentiel. Donc là, il amène ça, et avec de l'argent. Et il se trouve que derrière, et oui, le matos, il en a. Il en a parce qu'il a acheté justement à travers Free Pro et Scaleway, du matos pour, en particulier, les fameuses cartes GPU qui permettent de traiter de l'IA. Principalement aujourd'hui, le fournisseur, c'est NVIDIA, pour justement opérer ces modèles. Plus le supercalculateur Janzai, qui permet justement, qu'il y en ait plus gros au monde, de préparer ce modèle. Hein, il y a la préparation du modèle, puis après, il y a l'exécute du modèle. C'est comme ça qu'on fait de l'IA aujourd'hui, et il faut cette puissance-là. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a d'un côté, pour moi, l'Empire. Hein, l'Empire, avec justement, c'est quoi l'Empire? Avec Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft, il est sur 100% du software. 100% de software. Donc, c'est comme l'Empire. Hein, dans l'Empire, évidemment, on parle bien de la force, du côté obscur de la force ou pas. Et donc, l'Empire, c'est celui qui détient l'intégralité. Et c'est le cas de Microsoft aujourd'hui. Et OpenAI a basculé du côté de l'Empire. Alors, obscur ou pas, mais en tout cas, le côté commercial de la force. Et de l'autre, on a la rébellion, on a l'éthique, et on a justement les chercheurs qui viennent justement aujourd'hui tenser tout ça. on connaît l'histoire, l'Empire contre-attaque, faut pas croire que ça va bien se passer, mais quelque part, on est souvent un peu du côté des Jedi, parce qu'on se dit que c'est là où il peut se passer quelque chose en termes d'espoir, parce que l'IA, comme d'autres technologies, mérite mieux que d'être privatisée. La valeur que ça va générer, qui va être colossale, on est en train de se dire que c'est pour chaque personne qui travaille, on peut générer 30, 40, 50, 100 euros par mois. Faites le calcul sur des milliards de personnes. C'est colossal. Est-ce que ça va être donné à une seule boîte, comme ce qu'on a fait pour Google? Je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Donc, effectivement, il faut plutôt que ce soit collectif. C'est un bien de l'humanité. Et moi, je ne parle pas des dangers de l'IA, parce qu'il y en a aussi des dangers de l'IA, bien sûr, mais comme toute technologie. Mais moi, je parle plutôt que ce bienfait de l'IA qui va créer beaucoup de valeur dans nos sociétés soit partagé et non pas privatisé, et encore moins privatisé, prédateur d'un seul pays ou d'une seule entreprise. Voilà, c'est ça le sujet qui est derrière nous. Donc, on n'a pas fini de suivre la saga. Voilà, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. On verra ensuite, justement, quel est le chevalier blanc qui pourra émerger. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que, oui, aujourd'hui, on n'est pas dans une bataille perdue avec des années de retard où on se réveillerait. On est dedans. ChatGPT explose il y a quelques mois. Derrière, même les grands, les méta et autres sont un peu sidérés. Donc, ça veut dire qu'on est encore totalement dans le game. Totalement dans le game. Et d'ailleurs, je le vois, les usages qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'IA? Limite, justement, chacun d'entre nous, on va le faire bientôt, là. On a une annonce intéressante qui arrive. Voilà, on est dans le time. On n'est pas en retard vis-à-vis de ça. Et on a en plus les capacités. Parce que justement, il y a des acteurs comme Zach Neale, par exemple, qui se réveillent. Enfin, lui, généralement, il se réveille pour, je rappelle, Station F. C'est lui qui a lancé l'école 42 avant. C'est lui qui a lancé, justement, pour l'agronomie, son école d'agriculture, qui, à mon avis, fera un impact dans 5-10 ans. On en reparlera. Et là, il lance sur l'IA. Donc, lui, il est très, très, très... Enfin, c'est quelqu'un de très pragmatique. Hein. Il a à la fois cette ambition pour la France et il redonne à la France. Voilà. Ça, c'est vraiment ça aussi. Et il redonne à la France dans un rapport à la modernité, c'est-à-dire tourner vers le futur. Hein, il ne redonne pas à la France une fondation pour juste mettre des tableaux. Hein, je donne un exemple. Ouais, voilà. C'est bien de faire des tableaux, mais les tableaux, c'est plutôt regarder le passé. Ce n'est pas regarder le futur. Le futur, c'est effectivement, en particulier, le numérique. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant cette saga. On n'a pas fini d'en voir, donc vous imaginez bien qu'on est tout excité par rapport à ça. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sans doute un débrief de notre événement. Là, je fais un micro-pub. Jeudi, on fait notre summit GenSpot. Voilà, jeudi, le matin. On le fait aussi d'ailleurs dans le métavers. Vous voyez, c'est dans le futur. On a plein d'inscrits. On a déjà plus de 500-600 inscrits. C'est énorme. C'est vraiment super. On va avoir beaucoup de monde pour ces ateliers et tout ça. Donc, venez nous voir jeudi. Voilà, c'était la minute pub que je fais assez rarement, mais on fait 15 semis par an quand même, voilà. Mais je vous dis à la semaine prochaine.